19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Bruno de Stabenrath. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Bruno. On se connaît depuis 40 ans à peu près. Je t'ai connu en train de danser sur les tables, en train de chanter sur tes deux jambes au bus Palladium, chez Castel, parfois avec le grand orchestre du Splendid.
Ah oui, ça c'était la grande aventure de Borsalino.
Ouais.
Un orchestre mondain.
Oui.
Dont Pierre Celleron, le grand organisateur des soirées festives et des grandes soirées.
Ah oui, oui.
Avec la mère d'Edouard Baird qui travaillait avec lui. On a fait des soirées pour l'aristocratie, pour la grande bourgeoisie, à Monaco, Marbella. Enfin, c'était du boulot, mais j'ai adoré. J'ai adoré le boulot de chanteur, Frédéric.
Voilà. Mais oui, c'était ta première vie, ta vie de rockstar. Ouais, mais pas que ça, parce que tu étais aussi acteur au départ chez François Truffaut, L'Argent de Poche, qui était en
75, ouais.
75, où tu jouais un dragueur de filles.
Déjà.
Un rôle de composition.
Ouais. Oui. Oui. C'est-à-dire que Truffaut avait décelé déjà, moi, d'abord ma petite ressemblance avec Jean-Pierre Léaud.
Oui, bien sûr. Voilà, c'était un film qui était comme un peu la suite des 400 coups.
Voilà.
Parce que c'était aussi un film sur des enfants ou des ados. Après, tu as continué dans ce rôle, le même rôle dans L'Hôtel de la Plage, de Michel Lang.
Oui, j'ai embrassé Anne Parillo, Sophie Barjac.
Voilà.
Mais mon grand souvenir, c'était Mort Schumann.
T'as embrassé Mort Schumann?
non, mais Michel Lang avait eu l'idée géniale de demander à ce grand compositeur américain pour Elvis, pour la Tamla Motown. De faire la musique, et on se souvient d'un été de porcelaine.
Un été de porcelaine, c'est magnifique. Il y a 15 ans à peine.
Ouais.
Mais nous ne sommes pas sur Radio Nostalgie, nous sommes sur Radio Classique, et donc on va écouter tes choix musicaux. Mais d'abord et surtout parler de ton dernier livre, La Jeunesse du Monde, chez De Noël, consacré au destin brisé de Gautier et Vincent Malraux, qui sont morts dans un accident de voiture en 61.
En mai 61, à 18 et 20 ans. Et pour moi, c'est l'image d'une jeunesse qui danse sur un volcan, parce qu'entre mai et juin, il y a la CIA qui est à Paris avec les Kennedy, qui déteste De Gaulle, l'Algérie est encore française, le KGB arrive avec Rudolf Nureyev et les ballets du Kirov. Donc tout ce petit monde se retrouve à Paris, et les fils Malraux vont se retrouver dévorés par les morsures de l'histoire.
Et surtout qu'il y avait un lien entre Vincent Malraux et Rudolf Nureyev.
Par la chancée que j'appelle Fabiola.
Qui avaient, ils avaient une fiancée en commun.
Oui, ils avaient une fiancée en commun.
Voilà. Ce qui est surprenant de la part de Nureyev. Enfin.
Mais ce qui fait que l'histoire continue après la mort de Vincent.
Oui. On va parler de tout ça, donc. Mais tout de suite, on va écouter ton premier choix musical, qui est Jean-Sébastien Bach. C'est logique, puisque ton livre est un livre sur un accident mortel. Donc c'est une musique qu'on entend dans tous les enterrements.
Oui, non, mais surtout, c'est quand je passais mes vacances à Pau, nous avons en commun ma jeunesse paloise, à l'église Saint-Jacques, il y avait Jean Laporte, qui était l'organiste, qui commençait toutes les messes par Jésus comme ma joie demeure. Je trouve ça magnifique. Bach, pour moi, c'est vraiment... Voilà. Et il y a une version des Beach Boys.
Oui, c'est vrai, elle existe.
Ouais.
Thank you.
Oui, donc je suis avec Bruno de Stabenrath pour son livre « La jeunesse du monde » chez De Noël, qui raconte cet accident épouvantable qui a tué les deux fils d'André Malraux, Gauthier et Vincent. C'était le mardi 23 mai 1961, à 20h, sur la route de Lacanche. Ouais. C'est où Lacanche ?
Lacanche, en Côte d'Or. Il revenait de Port-Cros.
Oui.
Et cet accident a posé problème, puisque c'était fils d'un ministre, que Malraux était le ministre le plus proche de De Gaulle.
Ministre de la Culture.
Voilà. C'est pas Jack Lang, hein ?
Non, c'était avant.
C'était avant. Il y a eu un monde avant Jacques Lang, et que l'OS, l'Organisation d'Armée Secrète, les généraux Félon, voulaient descendre de Gaulle. Donc, ils ont fait sauter la maison des Malraux 8 mois après la mort, la fameuse maison de l'agence Crête, tu sais, la famille Crête.
Oui, oui. Mais alors, attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que tu insinues que l'accident mortel, l'accident de voiture est un attentat?
Alors non, mais à l'époque, ils se sont posé la question, sauf Malraux, parce que c'est ça en fait mon livre. C'est-à-dire que c'est un père qui n'aime pas ses enfants, enfin qui s'en fout carrément, quoi. Et que c'est un bon commissaire de police, qui est le commissaire Trottbas, qui va se dire, il y a forcément eu Anguille Souroche, il y a eu pas mal de baveurs à l'époque, hein, faut pas oublier. Et puis la maison des Malraux, elle a sauté 6 mois après. Donc l'enquête a conclu, mais il faut pas dévoiler. En fait, il y a eu, voilà.
Non, mais c'est un accident de voiture. C'est une Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce de couleur bleue. Le livre est extrêmement précis et c'est sur la Nationale 6. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute.
Voilà, pas d'autoroute, que des platanes meurtriers, pas de ceinture de sécurité, pas de limitation de vitesse, pas de airbag et pas de SAMU. C'est-à-dire ceux qui portaient secours, c'était les garagistes. Les garagistes étaient ambulanciers. Ce qui faisait
donc ils arrivaient des heures après l'impact, quoi. Ouais. Tu dis que Malraux s'en foutait, c'est un peu exagéré. Il a dû être simplement tellement touché qu'il a jamais exprimé ce deuil. Il n'a jamais réussi à en parler.
Frédéric Malraux n'était pas épicier, il n'était pas garagiste, il était écrivain. Et par exemple, quand tu vois le dernier livre sur sa vie qui est écrit par Sophie de Villemorin, la nièce de Louise. Pendant 7 ans, si tu vois l'article de la mort, c'est sûr que c'était pas Victor Hugo, mais il était capable d'écrire 15 pages pour Jean Moulin, mais même pas 3 lignes sur la mort de ses fils. C'est un truc que je ne comprends pas. Bon, les grandes douleurs sont muettes, bien sûr,
mais oui, c'est possible.
Je trouve que ça donne une autre dimension de l'homme, ce qui n'enlève pas sa qualité d'écrivain, d'homme politique extraordinaire. Mais voilà, c'était un père raté pour moi, tu vois.
Et alors, le malheur, en fait, c'est un enchaînement de malheurs, puisque les enfants, donc Vincent et Gauthier, ils ont vu leur mère
mourir
dans une gare
en 44
sous un train.
Voilà, Josette Clotis qui était la maîtresse de Malraux, puisque Malraux à l'époque est marié avec Clara Goldschmidt. Donc Gauthier, il le déclare sous le nom de Malraux, son frère. Ouais. Et puis Vincent, qui naît en 43 sous le nom de son grand-père Clotis, qui était le maire d'hier. C'est pour ça qu'il y a un rapport avec hier et Port-Cros.
Donc c'est terrible, il l'a vu.
Elle est passée sous le train, elle a eu les deux jambes tranchées et sa dernière phrase était aux infirmières, parce que Malraux n'est jamais venu la voir. Au bout de 3 semaines de souffrance énorme, maquillez-moi, si André me voit, je veux qu'il me trouve belle. Et il ne viendra jamais.
Elle avait 34 ans. Donc c'est vraiment un destin terrible pour ses enfants. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de te poser la question, puisque tu écris sur un accident de voiture. Évidemment, tu as peut-être pensé à ce qui t'est arrivé à toi le 17 mars 1996. Tu n'avais pas bu, tu n'avais pas fumé.
Non, je n'avais pas une passagère coquine.
Non.
Ni frivole.
Tu n'avais pas pris de drogue.
Non, mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que je raconte dans les premiers chapitres l'accident familial en 68. Que j'avais complètement oublié, où ma sœur, on était, on était en vacances en Italie, on va faire un pique-nique à Port-Cros. Oui. Et quand on arrive à hier au port pour prendre le bac, on se rend compte qu'on a oublié la glacière familiale. Avec toute la nourriture, on n'allait pas arriver à 9 chez des amis. Mon père dit à mon frère, prenez le bateau, allez sur l'île de Port-Cros, attendez-nous. Et mon père, en allant trouver un supermarché à l'époque, un accident terrible, ma sœur est gravement... Voilà. Et pendant 2 mois, mon frère et moi, on va être isolés sur cette île, avec une famille certes adorable. Et c'est là où va commencer l'histoire.
Oui, parce que tu as rencontré Céleste à ce moment-là, qui était amoureuse de Vincent.
Parce que Vincent était un grand peintre, hein. Vincent avait un talent fou. Et il avait fait ce tableau magnifique, qu'on appelle La Demoiselle au Soleil, de Céleste quand elle avait 11 ans. Et Céleste, je vais la retrouver, elle a 15 ans, 16 ans. Elle va me parler des fils Malraux, elle va m'offrir le Paris Match du 3 juin 61 avec Jackie Kennedy en machin, avec la photo des Malraux, et puis on aura de cesse que de retrouver les tableaux de Vincent, quoi.
Ça, c'est le début de ton livre, La jeunesse
du monde. Oui, pour raconter le lien.
Mais je me permets lourdement d'insister sur ton accident de 96, parce que je t'ai connu avant, et c'était le 17 mars 96, et à ce moment-là, mais je trouve que c'est... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une plaque de verglas, c'est ça? Non, on n'en a jamais vraiment parlé.
Non, parce qu'en fait, c'était le 17 mars 96. Donc, je revenais de la montagne. Donc, j'étais en pleine forme. J'avais fait du ski. Donc, ce qui est important parce que je suis pas arrivé fatigué. Je suis arrivé en pleine forme. Ouais. Ce qui m'a sauvé, en fait. Et donc, il y avait un déjeuner au château de Cigy, les 25 ans d'une amie, en Broisine. Ouais. On ne dit le nom. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai joué au tennis après le déjeuner. C'était un déjeuner assez sympa. On était une trentaine. Et moi, je me souviens de ce déjeuner. Où j'ai joué au tennis, où je faisais gauche, droite. Enfin, j'avais une très jolie fille qui jouait au tennis avec sa jupe plissée qui volait de gauche et à droite.
Calme-toi.
Voilà. Et puis après, j'ai pris la voiture pour rentrer à Paris. Et donc, toutes les voitures m'ont suivi. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait un peu de verglas. Et encore, il faisait assez beau. Vers 17h30, c'était une voiture que je venais d'acheter. C'était une vieille Mercedes des années 50, 60.
Cabriolet?
Non, deux portes. Et puis voilà. Et puis, je sais pas, je fumais à l'époque. La cigarette est tombée sur mes genoux. La voiture est partie en travers. Je lui ai donné un coup de volant. Il y a eu un dérapage. La voiture a fait un tonneau. Elle a mordu. Il y avait un ravin. C'est ça qui a tout changé. Oui. Et la voiture a fait deux tonneaux. Et alors, il y avait cette voisine que je ramenais à Paris, que je ne connaissais pas, avec qui j'avais joué au tennis, et qui a été éjectée par la fenêtre, et qui s'est retrouvée à quatre pattes. Heureusement, elle avait rien, elle avait juste une coupure au petit doigt. Mais si tu veux, moi, quand la voiture est tombée sur le toit, qu'elle s'est écrasée, c'est là où j'ai eu le coup du lapin, c'est là en fait où j'ai
En fait, la voiture s'est retrouvée sur ta nuque.
Voilà, elle m'a écrasé le coup du lapin. Bon, on continue. Enfin, tu me poses la question.
Ça m'intéresse.
Et bref, et donc là,
on en a jamais parlé.
Voilà, et là, je voyais le. Tu vois, là, j'ai compris que c'était grave parce que j'ai bougé, si tu veux, je voulais qu'on me sorte de là, quoi. Et au moment où j'ai voulu d'avoir coupé le moteur parce que j'avais qu'une peur, c'est que la voiture crame.
Oui.
Il y avait Henri Saint-Brice, le petit frère de Gonzague, qui est rentré dans la voiture, qui a coupé.
Au passage, Gonzague aussi est mort dans un accident de voiture.
Et qui a coupé le contact.
Tu n'es pas mort, toi. Pardon.
Voilà, moi, je suis vivant. Et voilà. Tu vois, je peux t'en parler pendant des heures.
Non, mais si je me permets de faire ce rapprochement, c'est parce que tous tes livres semblent tourner autour de cette tragédie centrale dans ta vie, évidemment.
Oui, mais en fin de compte, c'est pas que ça n'a rien à voir. C'est que moi, à 14 ans, quand je rencontre François Truffaut et que dans son bureau, moi, je découvre le show business, tu vois, le monde du cinéma, je vais tourner L'argent de poche avec lui, mais sur sa table, il y a le numéro de Paris Match de 75 avec James Dean, que je ne connais pas, qui est mort à 24 ans. Et c'est là aussi, tu vois,
un accident
de Porsche. Et c'est là où je pose la question de la vie, de la métaphysique, du destin. C'est quoi une vie? Et ces destins brisés qui vont me hanter avec Charles Manson, tu vois, Sharon Tate, Françoise d'Orléac.
Mais ça part de là.
Les destins brisés, bien sûr.
Alors, bon, ton premier livre, donc, c'était Cavalcade en 2001, qui était le récit, qui est d'ailleurs adapté au cinéma, récit de cet accident, de cette vie.
Hospitalière.
Transformée, livre se passait beaucoup à l'hôpital de Garches.
Oui, parce que ça m'a donné envie d'écrire, quoi, de devenir écrivain.
Oui, c'est ça, en fait. Tu étais acteur-chanteur, et puis tout d'un coup, tu es devenu écrivain par ce drame.
Parce qu'il fallait que je. D'abord, il fallait que je gagne ma vie, déjà. Mmh. Donc j'ai écrit, tu vois, des séries télé et tout ça. Mais tu m'avais encouragé au début, hein, Fred.
Je me rappelle.
Et puis après, c'est un métier.
Je ne savais pas s'il serait publié, mais je pensais que ça te ferait du bien d'écrire là-dessus, de toute façon. Publié ou non, quoi. Ouais. Et ensuite, alors, c'est vrai que tu continues avec des livres qui sont toujours sur les destins brisés. Ouais. Donc, Destin brisé du rock en 2004, où là, tu passes en revue
tous les rockstars.
Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison. Voilà.
Et surtout en 59, les premiers martyrs du rock, Buddy Holly, Richie Valens et le DJ The Big Bopper. Parce qu'en 59, le rock est encore menacé, quoi. Et que t'as une journaliste à New York qui écrit The Day the Music Die.
Est-ce qu'ils sont morts comment
En avion, dans un Bonanza. Ils étaient en tournée d'hiver, c'était très difficile. Et un soir, ils jouent au poker, les places dans l'avion. Il y a trois places, tu te rends compte la vie. Putain, et les trois mecs, voilà. Mais à l'époque où ils meurent, il y a à New York, enfin dans tous les États-Unis, on pense qu'on veut tuer le rock'n'roll, quoi. Mmh. On pense que le rock'n'roll est menacé, quoi.
Et il y avait ce livre aussi, Un ticket pour l'éternité, en 2018, où figuraient déjà les fils Malraux. Il y avait déjà un chapitre
sur
tu vois que je suis un exégète. On te l'a pas dit, ça.
Non.
Vincent et Gauthier Malraux étaient déjà.
Ah oui, parce que ça fait longtemps que ça me hante, cette histoire. Et surtout de savoir pourquoi, comment.
Et alors, par contre, il n'y avait pas Marilyn Monroe, je comprends pas pourquoi. Ah oui, parce qu'elle s'est suicidée, donc c'est pas vraiment un accident.
Non, t'as raison. T'es sûr que j'ai pas mis Marilyn? Ah oui, t'as raison. Elle avait 36 ans, comme Lady Di. Ouais. Il y a plus de stars qui sont morts à 36 ans, comme Bob Marley ou Lady Di, que 27. 27 ans, le club des 27, c'est un truc des journalistes anglais.
Ouais, mais
le mec a eu l'idée, quoi. Tu vois, qui est formidable.
Nous, on est toujours là. C'est ça le principal.
Ah oui. Bah, nous, on est plus jeunes, tu vois.
On est toujours là.
Et Xavier, enfin bref, quoi.
Et tout de suite, on va écouter ton deuxième choix musical qui est, c'est très beau, Le Clair de Lune de Claude Debussy par Natacha Kuditskaya au piano en 2015.
L'air préféré de mon père.
C'était le clair de lune de Debussy, choisi par Bruno de Stabenrath, que je retrouverai avec encore plus de plaisir juste après ces quelques messages indispensables.
Carina Septi, vous êtes DG de Robert Walters Management de Transition, un succès depuis 20 ans.
Chaque entreprise est amenée un jour à accélérer sa transformation, gérer une crise ou remplacer sans délai un dirigeant. Chez Robert Walters Management de Transition, nous déployons des managers expérimentés pour répondre à vos besoins ponctuels et urgents. Chaque contexte est unique, parlons-en.
Les Effacés, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier. En Galice, un tueur kidnappe des femmes qui partent tôt au travail. À Madrid, un assassin s'en prend à des milliardaires. Deux tueurs, deux mondes. Et pour Lucia Guerrero, de la Guardia Civile, une situation explosive. Les Effacés de Bernard Minier, un livre XO.
Dans quelques jours, le Festival de musique de chambre d'Arcachon vous attend pour 6 concerts exceptionnels. Jonathan Fournel, lauréat 2021 du concours Reine Elisabeth, Gauthier Capuçon, la jeune violoniste ukrainienne Diana Tischenko en duo avec Frank Bralet, l'ensemble vocal a cappella Apollo 5, Ariel Beck, étoile montante du piano, et le quatuor Modigliani, éclatant de sensibilité et d'élégance. Le Festival de musique de chambre d'Arcachon, des moments de musique et de partage, du 20 au 26 avril, dans le cadre magnifique du bassin d'Arcachon.
Rameau sera à l'honneur les 27 avril et 31 mai à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Vivez des moments inoubliables avec Platé, dirigé par Valentin Tournet, avec Mathias Vidal et Juliette May, révélation artiste lyrique des Victoires de la musique classique 2024. Et l'ultime chef-d'œuvre composé par Rameau, Les Boréades, sous la direction de Vaclav Loux. Deux soirées lyriques d'exception les 27 avril et 31 mai à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Réservation sur opéraroyal-versailles.fr.
Vous êtes musicien amateur de bon niveau ou jeune professionnel? Vous aimez les musiques de films? Rejoignez l'orchestre symphonique de la première académie d'été consacrée à ces œuvres restées gravées dans nos mémoires. Dans la station de Auze-en-Oisans, cadre idyllique au cœur des Alpes, vous travaillerez sous la direction de professionnels et donnerez une série de concerts en Isère. Rejoignez une académie d'un nouveau genre dédiée à la musique de film du 22 au 31 juillet. Renseignements sur beauxacadémies.com.
Le nouveau thriller historique d'Alexandre Murat est enfin disponible en librairie. Dans Aranea, le 9e livre, une société secrète veut à tout prix retrouver un livre millénaire qui lui ferait accéder à un terrible pouvoir. De l'Europe à l'Argentine, en passant par les États-Unis, Alex et Marie vont devoir affronter ce redoutable ennemi. Pour ce duo, cela sera la plus dangereuse des enquêtes. Aranea, le 9e livre d'Alexandre Murat, chez Fleuve Éditions.
Jusqu'à 20h, conversation chez Lapérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Et j'ai le bonheur d'être assis en face de Bruno de Stabenrath, qui publie La jeunesse du monde, Le destin brisé de Gauthier et Vincent Malraux chez De Noël. Nous sommes toujours chez La Pérouse, avachis, dans une ambiance de luxure absolue.
Et en buvant de l'eau.
Et en buvant de l'eau. Ça, c'est vrai que c'est important de le souligner, c'est tellement rare. Il y a dans ton œuvre un autre livre important, c'est aussi Un destin brisé, d'une certaine manière, mais le destin brisé d'une famille. C'est L'ami impossible, chez Gallimard en 2020. Livre qui raconte que tu étais un camarade de lycée à Versailles de Xavier Dupont de Ligonnès. Évidemment, pour toi, ça a dû être un choc.
Oui, une grande amitié. On s'est connus à 16 ans, on habitait dans la même rue, on était dans le même collège à Saint-Exupéry. Et c'est un garçon que j'ai adoré et que j'ai vu de décennie en décennie. Après, lui, il a beaucoup bougé, il a fait sa famille, il est parti à Pornic, à Nantes. Mais je suis toujours resté un peu en lien avec lui. Et quand cette histoire est arrivée, d'abord, je n'y ai pas cru.
Donc j'explique, pour les rares personnes qui ne sachent pas, il est suspecté d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011.
Il a tué sa femme et ses quatre enfants. Ont été réellement enterrés sous la terrasse et je trouve horrible ce que dit Christine. Voilà.
Alors, c'est très intéressant.
Honteux, tragique et dégueulasse.
Donc sa sœur, Christine, vient de publier un livre où elle dit qu'il aurait été exfiltré, que les cadavres auraient été remplacés par des services secrets, tout ça. Donc tu trouves que c'est des absurdités.
Parce que d'abord, ça met en cause la police scientifique, le procureur Xavier Roncin, moi je les connais, les flics, les policiers sont des gens honnêtes, c'est leur boulot, si tu veux. Mmh. Et puis t'as un commissaire formidable qui vient de publier dans Sud-Ouest, qui raconte qu'il était là quand on a sorti les corps, donc il avait les photos. Il a reconnu Agnès, il a reconnu Arthur, il a reconnu Thomas, Anne et Benoît. Donc on peut pas rigoler avec ça, veux. Ouais. Non, mais je pense que c'est même pas la peine d'en parler.
Non, mais
dégueulasse. Et que je pense que Xavier est toujours vivant. C'est le seul point commun que j'ai avec Christine.
Oui, elle dit ça. Alors, voilà. Et pourquoi tu penses ça?
Parce que je le sais. Je le connais comme je te connais, Fred. Donc, tu vois, je sais qu'il est vivant.
Et parce qu'il adorait les États-Unis, tu penses qu'il est là-bas?
Il a fait. Oui. Non, mais surtout que c'était pas quelqu'un du côté de la mort. Curieusement, c'est pas quelqu'un parce que si tu veux, quand tu parles avec, c'est un crime altruiste. Tuer sa famille, c'est un crime altruiste. C'est-à-dire, c'est tuer les gens qu'on aime le plus au monde pour les empêcher de souffrir ou de sombrer dans la.
Parce qu'il avait beaucoup de dettes, c'est ça. Il avait beaucoup de problèmes financiers.
Le mobile est très complexe, mais il part de là aussi. Oui. Et si tu veux, Xavier, il s'est donné du mal. Surtout, il pensait qu'on ne trouverait pas les corps. Ouais. Jamais il aurait pensé qu'on aurait trouvé les corps sous la terrasse si c'était pas planté dans la formule de ciment. Parce que c'est ça qu'il a dénoncé. Ouais. Quand le flic, la capitaine de police, fouille sous la terrasse, tu as un ciment qui est humide. Donc la capitaine de police, il dit, mais attends.
Ouais, elle voit tout de suite. Ouais.
Plus la dernière phrase de sa lettre, et surtout, sous la terrasse, c'est pas la peine de débarrasser les gravats. Enfin, tu vois,
c'est pas très malin. Non, mais alors précisons à propos de la sœur Christine que le procureur de Nantes a démenti tout ça le 22 mars dernier, en précisant une clôture des investigations n'est pas à l'ordre du jour, ce qui veut dire qu'il y a continuellement des signalements, plus de 1750 signalements qui ont été reçus, exploités par la police. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui croit voir Xavier Dupont de Ligonnès.
C'est un peu ridicule, Fred, parce que personne, moi je connais Xavier vivant. C'est-à-dire, je me souviens de sa voix, de son visage, de sa démarche, même s'il a 10 ans, enfin, il a 60 ans aujourd'hui, tu vois. Donc, je le reconnaîtrai entre 1000. Et d'ailleurs, si un jour je le retrouve, j'irai le chercher, si tu veux. Mais tous les gens qui parlent de Xavier ne connaissent que des photos. Et les photos, ça veut rien dire, quoi.
Alors, il y a un autre livre aussi, d'ailleurs, mais il y a une avalanche de livres continuellement sur cette affaire parce qu'elle passionne les gens. Et il y a un autre livre, c'est celui de Romain Portelas.
Oui, qui est un ami, Romain Portelas.
Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Et qui est un roman, pour le coup.
Mais le seul truc intéressant avec Romain, c'est un capitaine de police, mais si tu veux, qui était police aux douanes, mais qui s'est passionné pour l'affaire. Et moi, je suis en lien avec des flics quand même assez sérieux qui ont pris leur retraite et qui travaillent vraiment. Et maintenant, tu sais ce qui vient de sortir. T'as un nouveau logiciel extraordinaire. Ah bon? C'est-à-dire que je rentre tous les visages de Xavier, de 20 ans à 60 ans, en le vieillissant, et ce logiciel va le fouiller dans le monde entier. Trouver toutes les photos de famille, Facebook, Instagram, TikTok, machin.
Ah oui, les caméras de surveillance.
Tout,
c'est effrayant en même temps.
De près ou de loin.
Oui.
Et comme ça, il m'a montré une photo dernièrement, mais c'était toi. J'ai dit non, c'est pas. C'est pas Xavier, c'est Fred.
Bon, mais c'est vrai que je me disais, au fond, est-ce que ce qui te passionne, ce sont pas les accidents, mais c'est les changements de destin, les destins qui bifurquent.
Oui, enfin, c'est l'étoffe humaine.
Oui.
C'est-à-dire, c'est quoi un destin? Et puis la grande question que je pose dans L'ami impossible, c'est quand tu aimes quelqu'un d'amour ou d'amitié, est-ce que tu fixes une limite?
Oui.
Est-ce que tu dis là, ça va trop loin? Et moi, Xavier, toute ma vie, enfin, tu vois, je maintiendrai ce lien. D'abord, ce livre, c'est une grande lettre que je lui écris. L'ami impossible, c'est une lettre que j'ai écrite pour lui. Mais parce que j'espère qu'un jour, je le retrouverai et qu'il m'expliquera pourquoi. Moi, j'ai besoin de savoir.
Oui.
Voilà, tout simplement.
Et le point commun avec ton dernier livre, La jeunesse du monde, c'est que tu prends des histoires vraies, mais tu en fais quand même de la fiction. Ah, c'est-à-dire, oui. C'est un peu un roman. Et là, oui. En l'occurrence, les souvenirs de Porcros en juillet 68, tu les mélanges avec l'accident de la Simca, de ta famille, celui des fils Malraux. Tu rencontres Céleste, et Céleste...
je vais la retrouver pendant des années.
Tu vas la retrouver, c'est une amoureuse de Vincent Malraux. Ouais. Tu cherches en fait à construire
le lien.
Quelque chose d'imaginaire avec quelque chose de vrai.
Oui. Parce que Céleste, elle était obsédée d'abord de retrouver son tableau qu'avait fait Vincent Malraux. Et figure-toi qu'en 2001, je suis à Biarritz, je vais retrouver une copine à l'hôtel du Grand Palais. Et là, qu'est-ce que je vois dans l'entrée ? Exposition, peinture Vincent Malraux.
Ah,
tu
oui.
te rends compte ?
Oui, c'est ça, en fait. C'est beaucoup de tout est dû à des hasards.
Oui, puis c'est une histoire qui m'a hanté. Puis Vincent, il était né le 12 mars. Moi, je suis né le 14 mars. C'est quelqu'un avec qui j'étais en contact un peu extraterrestre, quoi.
Et tu t'amuses aussi beaucoup avec la visite à Paris de JFK avec Jackie.
Ah, bah oui, tout. Les menus, le dîner à l'Élysée, le service de l'Élysée qui est embêté du protocole parce qu'il pense que Malraux
va annuler.
Oui, parce que c'est juste après l'accident. Ah, oui. Il a perdu ses deux fils. Voilà. Il va quand même au dîner.
Voilà. Mais on se dit, il va être remplacé au grand dîner à Versailles. C'est mal connaître Malraux, surtout qu'il était amoureux de, il était amoureux de Jackie, qui admirait André Malraux sans jamais avoir lu ses livres.
Oui. Tu vois ? Alors, on continue. Il y a toujours dans mon émission un jeu qui s'appelle Devine tes citations.
Ah, d'accord.
Je vais te lire des phrases de toi. Tu dois deviner dans lequel de tes livres tu
d'accord,
as écrit ceci.
Okay.
On évalue la force et la puissance d'un amour perdu à la mesure des larmes versées.
Et
non, L'ami impossible. L'ami impossible, 2020. Alors, je voulais savoir comment tu écris. Tu écris
à l'ordinateur. À l'ordinateur. Non, tu sais, avant j'écris avec deux doigts, maintenant j'écris. Ça correspond exactement à ma mécanique intellectuelle.
Oui.
C'est-à-dire quand ça va trop vite, j'enregistre. Mais moi, j'écris, ça me va. Toc 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 toc.
Donc
toc,
tu tapes sur les touches.
Oui, avec
ma
main.
Poser la question.
Non, mais c'est une question.
Et tous les jours, combien de temps ?
Horaire de bureau.
Ouais. D'accord.
10h-20h.
Ah, et carrément.
Oui, 10h-20h pendant 3-4 mois. Je ne fais que ça.
Oui, oui.
Et de temps en temps, je sors pour m'aérer. Mais si tu veux, j'aime l'idée que je vais dans une chimie intellectuelle pendant 3-4 mois où j'ai tous mes documents. Alors, j'écris sur mon lit parce qu'en fauteuil, c'est assez douloureux. Tu sais, la position, elle est pas naturelle. Donc, je suis sur mon lit avec tous mes documents, tout ce dont j'ai besoin. Et là, je pars. Et j'adore d'ailleurs parce que je commence en lisant ce que j'écris la veille. Et là, je pars. Je sais un peu, j'ai mon plan.
Oui.
Mais par exemple, pour les fils Malraux, à un moment, j'ai le chapitre incontournable qui est celui de l'accident.
Oui.
Comment je vais parler de l'accident ?
Il est très bien fait.
Je vais dire, je suis un témoin sur le bord de la route, je suis dans la voiture avec Vincent, j'oublie l'accident et je commente un article de la presse. Hier, les fils Malraux, non. Quand j'ai eu les archives de la préfecture de la gendarmerie,
oui, t'es parti
c'était tellement émouvant.
Oui, t'es parti
il y en a qui enlevaient.
Des constats des flics qui sont arrivés sur les lieux.
Ouais. Les vrais constats.
Ouais. Autre phrase de toi. La souffrance ne vous embellit pas.
Ah, ouais.
Les gens beaux sont dehors.
C'est Cavalcade, ça.
Cavalcade, 2001.
Ouais, ouais.
Ton récit sur le handicap, à la fois révolté et bizarrement avec une sorte quand même de gratitude. C'est ça qui est très bizarre parce que ta vie, tu l'aimes, la vie que tu as maintenant.
Oui, oui. Dans mon malheur, j'ai de la chance. Même si, au fin de compte, tu te retrouves tout seul dans ton slip, tu vois ce que je veux dire. À un moment, tu dois prendre ton destin en marche. Et quand j'ai quitté au bout de 18 mois l'hôpital et que je me suis réinstallé à Paris, c'était très difficile de revenir devant le café de Flore, de retrouver les endroits que j'aimais en fauteuil avec le regard un peu misérabiliste des gens, en disant il aurait voulu qu'il meure. Enfin, tu vois.
Est-ce que ce regard-là a changé? Parce que est-ce que les personnes en fauteuil sont mieux acceptées aujourd'hui qu'à l'époque de ton accident, 96?
Moi, je peux parler que pour moi.
Oui.
Mais d'une manière globale, non. En fin de compte, quand tu vois Paris...
Tu sens un regard toujours un peu gêné.
Moi, je le vois plus, en fait. Je m'en fous.
Oui.
Depuis que j'ai mon nouveau fauteuil japonais, là. Non, mais ce que je veux dire...
Alors, faut décrire le fauteuil. Il est incroyable, ce fauteuil. On est presque jaloux de ce fauteuil.
C'est une petite bombe.
Hyper perfectionné.
Ce qui est marrant, c'est qu'en 23 ans de autant... Tu sais, parce que le premier fauteuil qu'on me voit, c'était un peu le mec, genre Gérard Jugnot, tu vois, le mec qui vient de vendre une 205 GTI, quoi.
Mmh.
Cette semaine, on fait une promo sur les pneus, les pneus cloutés. Enfin, tu vois, et c'est l'horreur, tu vois, parce que tu dis, je vais poser mes fesses là pour toute ma vie, quoi. Donc, tous ces fauteuils que j'ai achetés au cours des années, c'était un peu une horreur, quoi.
Oui.
Il y avait pas de, voilà. Mais bref, celui-là, quand il est arrivé.
C'est plus un kart qu'un fauteuil.
Et puis surtout, Fred, je peux marcher côte à côte avec une jeune fille. Je peux marcher, j'ai pas besoin d'être poussé.
Quand tu dis marcher, c'est rouler, pardon.
Rouler côte à côte. Avoir la fille qui me pousse derrière. Bon,
oui, oui. Sauf oui, c'est vrai. Si oui, c'est le vrai d'être. On peut dire un chemin vers l'autonomie.
Oui.
Mais est-ce que tu penses à toutes ces recherches qui existent sur les exosquelettes? T'as essayé ces choses-là?
Mais c'est pas pour moi. Enfin, pas pour l'instant. Parce que l'exosquelette, c'est Robocop. C'est un truc, déjà, tu mets une demi-heure à l'enfiler. Ça pèse 100 kilos. Mais pour faire quoi ? Pour marcher dans la rue.
Oui, les gens te regarderont encore plus.
Encore plus. Ouais. Et puis surtout, si tu tombes, t'imagines, tu tombes de 2 mètres, tu t'écrases.
Tu t'écrases la gueule. Mais parce qu'en fait, toi.
Non, mais c'est pour les jeunes. Oui. Moi, je pense que c'est pour les mecs de 15-16 ans qui arrivent avec leur moto, pour les mettre tout de suite debout.
Oui,
les réveiller. D'accord. Parce que moi, la première fois qu'on m'a mis l'exosquelette, si tu veux, j'étais debout. Ligoté de partout, harnaché, et puis dès qu'ils ont mis, dès qu'ils ont mis le truc en marche, c'était terrible. J'avais l'impression qu'il y a un mec qui me prenait par le col. Qu'est-ce que t'as fait à ma femme, espèce de salaud?
Non, mais c'est des recherches qui existent. Et alors, toi, ton problème, c'est un problème de moelle épinière.
Oui.
Est-ce que ça, c'est pas un truc qui
est.
Il y a des recherches là-dessus.
Voilà. Bon. Qui marche sur les singes, mais on n'a pas encore essayé le. Mais moi, j'ai plein d'espérance. Mais si tu veux, je suis avant de prêter mon corps à la science, je réfléchirai à deux fois.
Oui, voilà.
Je suis très heureux dans ma vie aujourd'hui.
Quoi. Oui, t'as pas envie d'être un cobaye.
Même si il y a rien de mieux que l'autonomie. On l'a vu tout à l'heure avec l'ascenseur.
Hein. Oui, il faut expliquer. Fluides. On a donc, on enregistre cette émission chez La Pérouse. La Pérouse est un restaurant magnifique qui a été construit en 1760 avant la Révolution française.
Avant l'été trapégique.
Donc, si vous voulez, il y en avait peut-être, mais je sais pas s'ils étaient.
Ils vivaient pas.
Je sais pas s'ils venaient chez La Pérouse. En tout cas, le restaurant est aux normes. Je précise pour les personnes à la mobilité réduite, mais quand même, on a eu des difficultés avec l'ascenseur. Peu importe. Une autre phrase de toi. Ils ont fait court, mais la poignée au taquet.
Ils ont fait court, mais la poignée au taquet. Ça, c'est le club des 27, ça, non ?
C'est dans Dictionnaire des destins brisés du rock, 2004.
Ouais,
t'aurais pu dire le pied au plancher, mais t'as préféré parler de moto que de voiture.
Oui.
Ils ont fait court, mais la poignée au taquet. On continue, une autre. Parmi les familles dispersées sur le sable et abritées sous les quelques parasols multicolores, j'observais des enfants turbulents qui couraient sur le rivage.
C'est quoi, c'est l'ami impossible ?
Non. C'est le dernier, la jeunesse du monde.
Ah, oui.
Tu es à la chambre d'amour.
Ah oui,
d'amour.
La chambre d'amour. Ah oui, c'est la fin. Oui,
anglais.
C'est basque. Ouais.
Très belle fin.
Ouais, ouais.
Tu décris des surfeurs à califourchon qui scrutaient l'horizon en attente de vagues.
Ouais.
Et oui, j'ai trouvé ça beau. Une autre phrase, mais qui n'est pas de toi, mais elle me fait beaucoup rire.
Vas-y.
Que faisiez-vous avant de rencontrer Monsieur Kennedy ? C'est le général de Gaulle qui
J'étais
parle.
Pucelle.
J'étais pucelle, c'est Jackie c'est Kennedy génial, ouais. Bouvier qui répond au général de Gaulle. C'est vrai ça ?
Oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, non, mais tout ce qui est politique, tout ce qui est à la fois l'enquête et tout ce qui est politique, c'est vraiment là. Tu sais, il y a eu 3 correcteurs. On n'a pas rigolé chez De Noël et Gallimard. Voilà, mais tout est vérifié. Les chansons, les films, le fameux festival de Cannes qui est infesté par les bolcheviks, ça c'est quand même énorme.
Alors, troisième choix musical de Bruno de Stabenrath, c'est Léo Delibes. Le duo des fleurs, extrait de l'opéra. C'est un opéra, L'Acmé,
oui,
une opérette.
L'Acmé, qui est inspiré d'une nouvelle de Pierre Loti.
Ah, magnifique.
C'est drôle, hein.
Magnifique. C'est et c'est chanté par Kiri Tekanawa et Catherine Jenkins en 2006.
Magnifique.
Thank you.
C'est une merveille, ce duo des fleurs de Léo Delibes dans L'Acmé. Et on entendait ce morceau dans un de mes films préférés, Les Prédateurs de Tony Scott avec Catherine Deneuve et David Bowie. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Bien, je suis toujours avec Bruno de Stabenrath qui publie La Jeunesse du Monde, Le Destin Brisé de Gautier et Vincent Malraux. C'est un livre sur l'accident de voiture des deux fils Malraux qui les a tués et l'ambiance tout autour, oui, la tout musique autour. De l'époque. Nourieff au Bourget, oui, qui réussit à échapper
grâce
à l'Union soviétique.
Malraux, grâce à la fiancée Vincent Malraux. Mais ce que je révèle dans le livre, parce qu'il y a énormément d'archives du KGB, de la CIA, ce que je révèle en fait dans ce livre, ce que j'ai découvert finalement dans les documents, c'est que Nourieff devait pas passer à l'Ouest.
À Londres.
Il devait passer à l'Ouest, oui, à Londres. Oui, tout était prévu pour ça. Mm-hmm. Et les Russes ont eu vent. Qu'il allait. Pourquoi ? Parce que le Royal Ballet voulait s'accaparer Nourieff avec tout le savoir-faire des grandes académies, le Bolshoï, le Kirov, les danses folkloriques, tu vois. C'est voilà. Quand même énorme, quoi.
Et finalement, en fait, il est parti plutôt que prévu. Il a fait ce saut mythique, le saut de la liberté.
Oui, ouais,
Quoi, il a sauté par-dessus quoi
C'est-à-dire, au moment où il va s'envoler pour Moscou, il y a la fiancée de Vincent Malraux, que j'appelle Fabiola, qui arrive au Bourget, qui comprend immédiatement la situation, qui va voir le commissaire de police, qui lui dit, OK, il peut demander l'asile politique, mais on peut pas aller le chercher. C'est à lui à venir vers nous. Et donc, Fabiola revient vers Rudolf, lui dit dans l'oreille, elle fait du charme au mec du KGB, parce qu'il y a les gardes du corps qui sont là, toi, les bodyguards, quoi, ils rigolent pas, quoi. Elle dit, écoute, dans deux minutes, au bar, là, à 10 mètres, il y aura les deux flics français. Et donc, quand Rudolf voit les deux flics français, il fait un bond, et là, il y a une bagarre générale, parce que t'as tous les danseurs de l'opéra, t'as les journalistes, t'as Olivier Merlin, et tout le monde se bat pour protéger Nourieff.
Nourieff
va être menacé pendant des années, tu sais, qu'il voulait lui briser les jambes, il voulait le tuer, quoi. Enfin,
il a obtenu l'asile politique. Ouais.
Et voilà. De Gaulle était furieux. Ça arrangeait pas du tout les affaires de De Gaulle, puisqu'il y avait les accords d'Évian qui étaient en train de négocier. Enfin, c'était un gros bordel. Excusez-moi le gros mot. Excusez-moi Radio Classique.
Bon, alors, à propos d'accidents de voitures célèbres, j'ai commencé à faire une liste. C'est vrai qu'à l'époque, c'était tellement, tellement pas de sécurité. Pas de limitation de vitesse, qu'il y a eu Albert Camus.
Albert Camus en 60,
Roger Nimier. Jean-René Huguenin.
Saint-Thierry de l'Arconne, qui était avec Roger Nimier. Voilà. Porfirio Rubirosa.
Oui. Bon, James Dean en a parlé, qui avait 24 ans. Françoise d'Orléac, 26 ans.
Voilà. Le frère d'Enrico Macias, mais qu'on ne connaît pas, mais qui est mort dans les voitures.
Un peu plus tard, la princesse Diana, à Paris.
Ouais.
Mon ami Jocelyn Quivrin.
Jocelyn Quivrin. Ouais. Grâce de Monaco.
Bien sûr, oui.
Non, mais c'est les routes dans les années 60 étaient terribles. Hein, quand on voit la différence, c'est intéressant quand tu étudies la sécurité routière. Aujourd'hui, il y a presque autant de morts. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on compte les scooters, les trottinettes.
Oui.
Tu vois
Je crois que ça a baissé quand même.
Bien sûr,
c'était 15 000 morts par an. Maintenant,
là, c'est moins de 5 000.
Oui, oui. Mais est-ce que ce qui te passionne, c'est pas cette question : pourquoi ne suis-je pas mort en 96 ?
Écoute, ça, c'est une question que m'avait posée Ardisson.
Alors, tu vois, je suis aussi vulgaire que lui.
Oui, non, mais moi, j'aime beaucoup Thierry. Je l'ai jamais trouvé vulgaire. Non, parce qu'en fait, c'est... Oui, évidemment, je me suis posé la question. Surtout que j'ai cru que j'allais mourir pendant les 3 mois de réanimation. Pour moi, c'était le voyage en enfer, quoi. C'était terrible, quoi.
Est-ce que tu es sorti de ton corps et tu t'es vu
avec
des anges autour?
Non, j'ai vu des choses très étranges. Oui, à un moment, je me suis vu monter vers le plafond. Enfin, tu sais pourquoi? Parce que quand j'étais dans un coma artificiel, mais on m'avait bourré de morphine pour pas que je souffre. Parce que si tu veux, t'imagines, t'es un corps plein de vie, ce corps, il rentre dans un mur à 200 à l'heure et tout d'un coup, il ne bouge plus. Donc toi, t'es allongé, donc ton corps il fond, tes muscles ils fondent, donc ça c'est beaucoup de douleur, même si les infirmiers te tournent toutes les 3 ou 4 heures, tu es sondé de partout, t'as des fils, une antenne Wi-Fi, enfin bref, c'est horrible. Et puis tu souffres horriblement, et puis ton corps se pose des questions, pourquoi je bouge plus, quoi. Et moi en plus je faisais une très mauvaise réaction
à la morphine.
À la morphine. Donc heureusement mon frère médecin a compris ça. Si tu veux, je faisais des cauchemars où j'avais l'impression que je me faisais violer, que je mourais, qu'on me coupait la gorge parce que j'avais une trachéo, donc on l'a nettoyée. Enfin, t'imagines l'horreur. Je sais pas pour les détails, mais
non,
voilà,
mais
c'est la vie,
tout,
quoi.
Non,
c'est la vie.
Parce que
c'est ma vie.
Les toxicomanes pourraient être jaloux quand on te donne autant de morphine, mais en fait la réalité c'est que c'est cauchemardesque.
Gratos, payé par vos impôts.
Et une autre question que tu poses, que tu sembles te poser dans tous tes livres, c'est qu'auraient fait tous ces gens qui sont morts jeunes s'ils avaient survécu.
Voilà. Et surtout leurs œuvres.
Oui. Les livres d'Albert Camus qu'il n'a pas écrit.
Exactement. Oui. Tous les films que François Dolléac aurait fait contre ou avec Catherine Deneuve.
Oui.
Toutes les femmes que Porphyre Rubirosa aurait séduites. Oui. Tous les films qu'aurait fait James Dean, il est mort à 24 ans. Donc,
oui, il n'en a fait que 3.
C'est, voilà. Ouais. Mais en même temps, c'est intéressant quand tu vois Michael Jackson, qui avait 50 ans, Prince et George Michael ou Elvis, 42 ans. Tous ces gens-là ont des maquettes de chansons, des démos qu'on exploitera peut-être un jour ou peut-être jamais. Tu vois, toutes les œuvres posthumes, quoi.
Oui.
Mais si tu veux, la grande question, Fred, pour moi, c'est la question de la vie. C'est-à-dire, pour moi, c'est la grande question. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Tu vois, c'est une vraie question, quoi. C'est quoi notre destin, quoi?
Et même dans ce livre, La Jeunesse du Monde, ce titre, déjà, La Jeunesse du Monde, tu parles d'un accident qui était en 61, mais c'était des gens de 18 ans et 20 ans, les frères Malraux. L'un qui voulait être peintre, il serait peut-être devenu un grand peintre.
Un grand peintre, il aurait fait les Beaux-Arts. Gauthier, il faisait Sciences Po, donc il aurait été, je pense, journaliste, parce que c'est quelqu'un qui adorait le voyage.
Mmh. Et puis, peut-être écrivain comme son père.
Peut-être
meilleur que son père.
Peut-être meilleur que son père. En tout cas, plus sympa, sûrement.
Mais toi, qu'est-ce que t'as contre André Malraux? C'est quand même un grand écrivain, André Malraux.
Ouais.
Bon, je vais pas arriver à te convaincre. Le choix de, on demande à tous nos invités un choix de jazz. Et toi, tu as choisi Simply Red, mais avec une reprise d'un
Cole Porter, qui est pour moi, parce que le jazz, tu sais, le jazz arrive pendant la guerre avec les Américains. Enfin, même avant, dans les années 20 et 30, mais les grands big bands, tu vois. Là. Et c'est vrai qu'il y a toujours une confusion entre le jazz typique et puis les chansons de jazz. Quand Sinatra chante des chansons de jazz, est-ce que c'est un chanteur pop avant l'heure ou est-ce que c'est un chanteur de jazz? Et Cole Porter, il a fait des mélodies Night and Day, enfin des mélodies extraordinaires. Et cette chanson Every Time We Say Goodbye, tu sais qu'il adresse à, non pas à son amoureuse, parce qu'il préférait les mecs, à son amoureux, mais c'est magnifique. Every time we say goodbye, I die a little. Tu vois.
When you're near, there's such an end of spring about it. I can hear a lark somewhere waiting to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say
magnifique choix de Bruno de Stabenrath, Simply Red, qui interprète le classique de Cole Porter, Every Time We Say Goodbye, I Die a Little, que je ne traduirai pas parce que c'est mieux en anglais.
Ouais. Et encore une histoire de die. Hein.
À propos de ça, j'ai au téléphone quelqu'un qui a une question à te poser.
Pour rien au monde, je n'en recommencerai ni ma vie, ni celle d'un autre, ni rien. Je ne vais absolument rien recommencer.
Donc c'était Romain Gary qui fait cette confidence. Il dit que moi, si c'était à refaire, je referais rien pareil. Je voudrais tout recommencer autrement. C'est ça, j'ai l'impression. Il a pas du tout envie de revivre la même chose. Alors évidemment, je peux pas m'empêcher de te demander ça parce que c'est une question qui tue en fait.
Oui, mais c'est intéressant.
Si c'était à refaire.
C'est intéressant que tu évoques Romain Gary parce que moi, de mes lectures de jeune, il y avait évidemment La Condition humaine, mais qui était peut-être trop intellectuel ou j'étais trop immature, mais en revanche,
il est pas simple le livre de Malraux là. Voilà. Il est pas, non.
Mais en revanche, j'avais adoré La Promesse de l'aube. Pour moi, Romain Gary est un écrivain sentimental qui parle très bien des femmes.
Oui.
Donc c'est toujours quelqu'un qui m'a touché, mais il était profondément dépressif, Romain Gary, tu vois. Donc, ta question c'est quoi?
Ma question, elle est très lourde, elle est très embarrassante.
Non, pas du tout.
Si c'était à refaire, est-ce que tu referais différemment ou est-ce que tu voudrais que ça se passe autrement?
Oui, j'aimerais que ça se passe autrement. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans les quelques derniers mois avant mon accident, si tu veux, j'avais monté un groupe 4 guitares, 4 voix, très californien, très beach boy. On commençait à faire des concerts en Suisse. On avait un producteur sérieux, on avait une major. tout d'un coup, je me suis dit, voilà, à quatre, on va réussir ce qu'on n'a pas réussi tout seul en tant que musicien et chanteur.
Et donc, tu serais aujourd'hui chanteur.
Non, on aurait, fait un groupe un peu à la Powo.
Ouais, ouais.
Vois, mais plus californien, plus Crosby, Stills, Young, Bee Gees, tu vois, nous,
avec des voix de différentes tonalités.
Genre Beach Boy, quoi. Vraiment, les quatre voix. Et surtout, on reprenait des chansons françaises à quatre voix de Souchon, de Gainsbourg. Et tout de suite, on a eu du succès, quoi. Même si, voilà. Et quand je me suis dit, tout s'est arrêté, quoi, brutalement. Et moi, j'avais cette image en Suisse, on jouait sur une scène, c'était génial, on était tous les cas, c'était grave, quoi. Et puis, cette aventure s'est arrêtée. Et non seulement j'ai perdu la musique, puisque avec mes mains, je ne peux plus faire de piano, plus de guitare, plus chanter comme avant, mais j'ai perdu une famille de musiciens, parce que j'étais comme un capitaine qui n'avait plus de bateau. J'ai gardé quelques amis, mais tu te rends compte, tous les musiciens que j'ai côtoyés pendant 15 ans, et ils sont tous partis, quoi. Tu vois, c'était. Puis moi, la musique, c'est une grande partie de ma vie, quoi. C'est tellement important. Ma mère était pianiste de jazz. Ma grand-mère, à Pau, avait un salon musical. Moi, j'ai eu vraiment une formation musicale classique, quoi.
Donc, en fait, tu es un écrivain... Un écrivain, c'était ton plan B.
Oui, mon plan B. Mais j'aime raconter les histoires aussi.
Et tu te débrouilles très bien quand même.
J'aime raconter les histoires.
Le livre a eu de très bons, une très belle presse.
Ouais, j'aime écrire. Oui, parce que pour moi, c'est un métier. C'est-à-dire, comment tu racontes le fond, la forme, et puis lire beaucoup. J'ai vraiment fait ça sérieusement. Il y a 22 ans, quand j'ai commencé vraiment à me dire, là, il faut que je raconte un peu mon histoire. Je me suis vraiment à travailler, quoi. Puis j'avais quand même toute l'éducation du scénario, ça m'a beaucoup aidé pour créer des personnages, des situations, situations de conflit. Enfin, tu connais ça pareil, toi, qui as écrit pour le cinéma et tourné. Tu vois.
Quel est le pire livre que tu aies jamais lu de ta vie?
Ça, c'est pas gentil, ça.
Non.
C'est pas gentil. Alors moi, je vais te dire, je lis très peu de romans. Ça m'ennuie terriblement. Je lis toi, moi, enfin les copains. Amélie Nothon de temps en temps, parce qu'après son roman du Japon là que j'ai adoré. J'ai oublié le
Super et tremblement.
Voilà. Quelques gens que j'aime bien. Enfin les copains.
D'accord.
Mais tu veux dire le plus mauvais roman?
Oui. C'est-à-dire que chaque fois que je pose cette question, les gens me disent que du bien de livres. Ils veulent pas dire du mal. Donc c'est ton droit.
Écoute, non, parce que je lis que des bouquins intéressants.
Oui, quand enfin, ça.
Alors si attends, je vais peut-être être
un livre qui t'est tombé des mains.
Je vais être un peu méchant, mais moi j'adore les biographies.
Oui.
J'adore les biographies. J'adore, tu vois, quand Sardou écrit sa vie, je me dis, il a plein de choses à raconter.
Oui.
Je l'ai lu il y a pas longtemps parce que le voir à la télé me fait marrer, Sardou. Sauf que il a plus du tout la même voix qu'avant. Il prend trois tons en dessous. Bon, bref, c'est pas terrible. Et le livre qui s'appelle, je crois, et on n'en parlera plus, quoi. Mm-hmm. Je trouve ça, mais je sais pas qui l'a écrit. Ça. C'est lamentable parce que Sardou, il a plein de choses à raconter, tu vois. Et le bouquin fait 240 pages, quoi. Alors que Sardou, moi, je peux en écrire.
Oui, c'est trop court. Ouais.
Et j'ai raté la biographie de Rocco Siffredi que j'aurais bien aimé.
Et quel est le livre que tu aurais aimé écrire, justement? Alors, c'est peut-être ça.
La promesse de l'aube.
Ah oui, La promesse de l'aube. Parce que c'est l'amour de la mère.
L'amour d'une mère, et que, voilà, et qu'il y a cette belle image. Et puis, il y a ce côté un peu émigré, tu vois. Il y a le côté, il devient ambassadeur, quand même, en Californie. Ce qui était un an consul, je crois, Ormagari.
Pour finir, on va conclure l'émission, et merci beaucoup, Bruno, d'être venu chez La Pérouse pour parler une heure de tous tes livres. Mais c'est vrai, ce qu'il y a de formidable chez toi, c'est que tu n'as jamais voulu endosser le rôle du porte-parole des handicapés, entre guillemets. C'est quelque chose qui... Tu as voulu faire ton chemin, ton œuvre, parler des destins brisés. Oui, parler du sujet,
bien sûr,
de manière indirecte.
Sans forcément puisque je te dis...
Mais sans être le porte-voix.
Non, puisque le destin brisé, pour moi, c'est James Dean, 24 ans, quoi. Oui. Et puis surtout, j'ai eu mon accident, j'avais 36 ans. Ouais. Donc, j'ai passé plus de temps debout qu'en fauteuil. Peut-être que dans mes 36 années prochaines, on fera une grosse fête, d'ailleurs, en fauteuil. Peut-être que ça, tu vois, mais même si je suis sensible à la cause, parce que on les entend pas beaucoup, quoi. Puis là, il y a les élections qui se pointent, donc je prépare mon petit Trafalgar.
Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme réforme urgente pour les personnes à mobilité réduite?
Déjà, dans les grandes villes, l'accessibilité. Ça, c'est pas
toujours
possible.
Pas
toujours pas.
Parce que, pourtant, il y a des toilettes partout, il y a des places de parking partout.
Oui et non, parce que toi, tu vois ça peut-être en tant que citadin ou, voilà, mais moi, je peux te dire que je vois des boutiques, je vois des... Alors évidemment, les nouveaux immeubles, les nouveaux restaurants, mais moi, je peux te dire, là encore, le restaurant où je suis allé déjeuner aujourd'hui, il y a une marche, alors qu'il y a maintenant, enfin, tu trouves des rampes faciles. Enfin, tu vois, c'est une espèce de réflexe que les Français n'ont pas, que les Anglo-Saxons ont, mais que les Français n'ont pas. Ouais. Bordeaux, super. Bordeaux, très, voilà, je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
D'accord.
Accessible partout, voilà.
Bon, merci beaucoup en tout cas, Bruno de Stabenrath. Je rappelle que ton livre s'intitule La jeunesse du monde.
Merci Frédéric.
C'est chez De Noël et il ne coûte que 23 euros.
Ça
c'est quand même un peu cher.
Non, mais pas pour ce que c'est. Merci beaucoup.
Salut Fred.
Merci aussi à toute l'équipe, Philippe Gault qui produit l'émission, Mathieu Roque-Lago à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant, sur Radio Classique, le concert du samedi soir, aujourd'hui à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, justement.
Ah oui, j'y étais aux Invalides, en fauteuil.
Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé en partenariat avec Le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.